France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 1940, l'exil de l'or de France. Le 15 juin 1940, des officiers nazis se présentent à la Banque de France pour faire main basse sur l'or qui y est entreposé. Beaucoup d'or, l'équivalent de 200 milliards d'euros d'aujourd'hui. Évidemment, pour les troupes d'Hitler, annexer la deuxième réserve mondiale est une aubaine pour soutenir l'effort de guerre et garnir les caisses du Reich. Mais au sous-sol du bâtiment, il n'y a plus rien. Pas un gramme d'or. Non, tout a été évacué dans les semaines et les jours précédents. Lingots, barres et pièces ont été embarqués sur des navires militaires pour Halifax, Casablanca, puis Fort-de-France ou Dakar. Le défi logistique était énorme et sa réussite a tenu à une poignée d'hommes de la Banque de France qui ont su mettre à l'abri plus de 2000 tonnes d'or pendant les 5 ans de la guerre. Les mettre à l'abri des nazis, de Vichy, mais aussi des alliés. Il s'agit là finalement de la seule victoire française en 1940, comme le dit joliment notre invité aujourd'hui, Arnaud Manas, historien, directeur du service du patrimoine de la Banque de France, auteur du livre « L'or de Vichy », paru en 2016 aux éditions Vendémiaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct, récits, documentaires et rédaction chef aujourd'hui, Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Coom.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Français, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire.
Le 23 juin 1940, Hitler est à Paris, dans une ville déserte comme on ne l'a jamais vue. L'avion a atterri au Bourget à 5h du matin. La veille, le gouvernement français, réfugié à Bordeaux, signe l'armistice avec l'Allemagne nazie. La voiture dépose Hitler à la Madeleine, où il expose ses vues sur l'architecture classique, sa passion. Puis il se rend à l'Opéra Garnier, qu'il émerveille, avant d'entrer aux Invalides, où il se tient quelques instants devant le tombeau de Napoléon. Il aurait dit que c'était là le plus beau jour de sa vie. Hitler est donc à Paris en vainqueur et un peu en touriste. 3 heures après son arrivée, il repart, il ne reviendra jamais plus. Ce même 23 juin 1940 à Londres, le général de Gaulle est au micro de la BBC. Il y eut son appel du 18 juin, bien sûr, exhortant les soldats, les officiers, les ingénieurs et les ouvriers de l'armement à le rejoindre. Il y a eu le discours du 22 exaltant le refus de l'asservissement. Et puis, bien moins connu, il y a donc cette allocution du 23.
L'armistice accepté par le gouvernement de Bordeaux est une capitulation. Cette capitulation a été signée avant que soient épuisés tous les moyens de résistance. Cette capitulation livre à l'ennemi qui les emploiera contre nos alliés, nos armes, nos avions, nos navires, notre or.
Mais laissons là les armes, les avions, les navires, mais pas l'or. La France en détient à l'époque la deuxième réserve mondiale derrière les États-Unis. Lucien Lamoureux, le ministre des Finances de mars à juin 1940, la chiffre ainsi, 2168 tonnes d'or pour une valeur approximative de 116 milliards de francs de l'époque. Avant de révéler où cet or est entreposé en 1940, il faut dire où il n'est plus. Il n'est plus dans la souterraine. Le plus grand coffre-fort du monde, bâti de 1924 à 1927 sous la Banque de France. Après la Première Guerre mondiale, décision est prise, il faut protéger l'or français d'une campagne de bombardement, d'attaque au gaz, d'une insurrection ou d'une occupation. Alors, jour et nuit, 1200 ouvriers creusent le sous-sol de la rue Croix des Petits Champs. Les chiffres sont démesurés pour l'époque. 10 000 tonnes d'acier, autant que pour la tour Eiffel. 20 000 tonnes de ciment, 50 000 tonnes de sable, 150 000 mètres cubes de remblai pour construire, à près de 30 mètres sous terre, un espace gigantesque de plus d'un hectare, la taille d'un terrain de football ennemi. La salle est sécurisée par une porte blindée de 8 tonnes et un bloc de ciment de 17 tonnes qui s'encastre dans une tourelle qui en pèse 130. Le plafond de béton, lui, a une épaisseur de 6,5 mètres. Et, prouesse technique, la salle forte est située sous la roche et sous une nappe phréatique. En 1932, fasciné, le grand écrivain Stefan Zweig obtient l'autorisation exceptionnelle de visiter l'endroit. Dans un texte court, « Visite à la souterraine », il évoque, je le cite, « la construction parisienne la plus remarquable et la plus marquante de son temps ».
Dans une plongée vertigineuse, l'ascenseur nous entraîne 26 mètres plus bas, ce qui représente une chute de 7 étages le long d'un puits cylindrique et parfaitement étanche. Nous voilà enfin au fond, à l'entrée de cette mine artificielle. Brusquement, nous sommes envahis par un sentiment de calme merveilleux. Plus aucun bruit ne nous parvient d'en haut. Ce silence est lumineux. Des lampes innombrables diffusent une lumière uniforme dans les couloirs de ciment blanc. Un air filtré et pur est peut-être le plus exquis de tout Paris. Des ouvriers transportent de lourdes caisses en bois. Il pourrait s'agir de sucre, de laine ou de dattes. Mais c'est de l'or en barres ou en pièces, de l'or pur qui se dissimule peureusement sous une mince enveloppe. Derrière ces murs de ciment et d'acier repose le trésor légendaire, l'or de la France, qui représente une portion considérable de l'or de la planète.
Le 15 juin 1940, deux officiers et deux sous-officiers allemands se présentent à la Banque de France. C'est Louis de Blétry, le contrôleur général de l'établissement, qui les reçoit. L'officier supérieur, un capitaine, lui tend la main. Blétry lui tourne le dos. L'Allemand questionne alors son interlocuteur avec un ton péremptoire, note un agent de la banque, témoin de l'entrevue. Voici un extrait de son compte-rendu rédigé ce 15 juin 1940.
Avez-vous de l'or, des devises, des valeurs étrangères, des billets et pour combien ?
Nous n'avons plus rien ici, en fait, d'or, de devises ou de valeurs étrangères. Il nous reste environ 200 à 300 000 francs en billets.
Où est l'or ?
Loin, en France, non occupé.
Avez-vous des coffres-forts ?
Oui, mais nous ne possédons pas les clés de chacun.
Alors à partir de maintenant, par ordre supérieur, toute descente au coffre est interdite.
Mais je proteste !
Mon uniforme ne vous suffit pas ?
Cela ne me suffit pas.
Vide ! Les Allemands sont furieux. Cette portion considérable de l'or de la planète, comme l'écrivait Stefan Zweig, a disparu. Fâcheux, très fâcheux pour l'envahisseur nazi, qui, ne l'oublions pas, a mené aussi une guerre mafieuse, à coups de spoliation dans tous les pays occupés, embauchant en passage les pires malfrats dans les polices politiques, ici et là, la milice en France par exemple. Eh bien c'est ici que notre histoire commence vraiment. Ici, c'est 8 ans avant la déconvenue des officiers allemands en 1932. Donc, le gouvernement français prend conscience que la Première Guerre mondiale n'était peut-être pas la der des ders. Économiquement, les effets du crash boursier de 1929 se font encore sentir. Politiquement, des ligues d'extrême droite tentent d'imposer leurs idées par la violence. Et sur la scène internationale, l'Allemagne se retire de la Conférence mondiale pour le désarmement. Mussolini est déjà au pouvoir en Italie. Et Hitler s'apprête à y accéder en Allemagne. Vent mauvais. L'année suivante, la Banque de France rapatrie l'or de ses succursales situées près des frontières pour le stocker dans celles du centre et du sud du pays, on ne sait jamais. Parallèlement, des plans d'évacuation sont établis. Itinéraire, sécurité, moyens de transport, caractéristiques des caisses, etc. Les pièces d'or sont fondues afin d'être transformées en barres ou en lingots plus faciles à transporter. Ainsi, en 1938, durant 2 mois, 400 camions et 160 wagons de chemin de fer sont chargés avec l'or de la souterraine afin de le mettre à l'abri à Mont-de-Marsan, Rodez, Lisieux, Le Mans ou Poitiers. En novembre 1939, 30 milliards de francs or sont transférés aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Depuis son entrée en guerre 3 mois plus tôt, la France utilise cet argent comme garantie pour acheter armes et matériel à l'étranger. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht réalise la percée de Sedan. Une offensive à travers les Ardennes qui transperce les frontières luxembourgeoises, belges et françaises. Les nazis contournent la ligne Maginot à la grande surprise de l'état-major français qui n'en avait même pas envisagé la possibilité. Le 14 mai, le ministre des Finances reçoit un état des lieux établi par la Banque de France. L'or national est réparti dans les dépôts de 51 succursales. Sur le papier, l'enjeu est simple. Il faut le concentrer dans les ports militaires du Sud et de l'Ouest afin que la marine évacue à l'étranger. Le ministre, Lucien Lamoureux, liste alors les difficultés. La guerre en cours qui empêche de se procurer des wagons, des camions et des escortes nécessaires. Sur les routes et les rails encombrés par le flot de réfugiés fuyant les combats, les convois militaires ont tout de même la priorité de passage. Mais Lamoureux n'a pas prévu un autre obstacle. Le gouvernement. Après-guerre, dans ses souvenirs livrés à la revue des Deux Mondes, il écrit.
J'assistais à un comité de guerre. J'en profitais pour mettre mes collègues au courant de mon intention de transférer l'or en lieu sûr, en dehors du territoire. En raison des risques, je désirais me faire couvrir par le gouvernement. Contrairement à ce que j'espérais, je me heurtais à une vive opposition et je ne reçus pas l'autorisation que j'avais demandée. Un de mes collègues traduisit l'opinion générale en observant que, pour inquiétante que fût la situation, elle n'était pas encore désespérée et ne justifiait pas une telle hâte. J'étais profondément déçu et je passais la nuit à réfléchir. Au matin, ma résolution fut prise. J'évacuerai l'or tout de suite et sous ma seule responsabilité, sans en référer ni à mon chef ni à mes collègues. Mais je pensais qu'il me laisserait agir pour ne pas prendre la responsabilité d'avoir empêché ou retardé l'opération au cas où l'ennemi viendrait à s'emparer d'une partie de notre or.
Lamoureux compte donc sur la lâcheté de ses collègues ministres qui ne veulent pas se mouiller et sur leur hypocrisie. Au moins, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir décidé quoi que ce soit. Le 27 mai, Dunkerque est écrasé. Des vagues de bombardiers de la Luftwaffe déversent sur la ville 45 000 bombes. À l'Estrène, dans le Pas-de-Calais, la division SS Totenkopf exécute 97 prisonniers de guerre anglais. En Belgique, l'armée capitule face aux nazis. Le conseil des ministres ce jour-là est dramatique, écrit Lucien Lamoureux. Le président du conseil, Paul Reynaud, fait passer un mot à son ministre des Finances. « Où en êtes-vous avec l'évacuation de l'or ?» Lamoureux est soulagé. Il a eu raison d'agir sans l'aval officiel. Alors il répond « L'opération va aussi vite que possible. » Effectivement, voilà 10 jours déjà que Lamoureux a chargé des hommes de confiance de la Banque de France de regrouper l'or dans 3 ports. Toulon, Brest et le Verdon, au nord de l'estuaire de la Gironde. C'est là qu'est envoyé Charles Moreton. Sur place, il se retrouve confronté à un véritable cauchemar, écrit-il dans ses mémoires, à un casse-tête effarant. Et il énumère l'arrivée imprévue de très nombreux trains de réfugiés belges, de trains de troupes, trains sanitaires et trains d'essence sur des voies de garage ou des voies principales m'empêchent de grouper mes wagons d'or en un seul point. Sans compter les accidents. Alors qu'il parvient tant bien que mal à rassembler hommes et matériel, la fausse manœuvre d'un cheminot fait dérailler un wagon de 17 tonnes qui s'enfonce profondément dans le ballast. Les retards succèdent aux contretemps qui s'additionnent aux délais. Mais le 28 mai, tout est prêt. Les 23 wagons réquisitionnés sont à quai dans l'estuaire de la Gironde. Leur contenu est prêt à être transporté sur le Ville d'Oran, un paquebot camouflé et armé, transformé en croiseur. Mais tout ne se passe pas comme prévu, ainsi que le raconte Charles Moreton dans ses souvenirs de « Ma drôle de guerre ».
Deux gabelous, curieux par nature et par devoir, très intrigués par notre remue-ménage, nous pressaient de questions pour savoir ce que nous embarquions. À bout de patience, je leur déclarais que c'était de l'or. « Avez-vous l'autorisation de l'office d'échange ?» me dirent-ils. « Je suis le directeur de l'office, leur dis-je, en leur montrant une lettre officielle. « Votre autorisation n'est pas en règle, » me dirent-ils, « et vous ne chargerez pas. » Ils se mirent aussitôt en travers de la coupée, revolver sorti de leur gaine, pour nous empêcher de passer. Je fais signe au lieutenant de vaisseau, qui s'amusait de cette scène grotesque, et ce dernier détache deux solides lascars qui ceinturent nos deux bons douaniers et les enferment en lieu sûr.
L'un des douaniers fait le soir même une crise cardiaque due à l'émotion causée, mais le transbordement peut avoir lieu. Le Ville d'Oran appareille le 30 au matin, lesté de 3000 sacoches et 750 caisses d'or, ce qui représente, indique Moreton dans ses mémoires, 300 tonnes pour une valeur de 25 à 30 milliards de francs de l'époque. Au même moment, à 600 km au nord, deux autres hauts cadres de la Banque de France doivent gérer le regroupement de 900 tonnes d'or à Brest. Les quais de l'arsenal étant trop petits et trop exposés aux bombardements allemands, les banquiers font stocker 16 000 sacoches d'or à 10 km de là, au fort du Porzic, dans le goulet de Brest. Et là encore, la logistique est hasardeuse. Alors, on a fait tout ce qui était interdit, se souvient Michel Gatelier, un jeune officier de marine. La Banque de France veut des hommes triés sur le volet pour transporter l'or. Il vide les prisons pour trouver ses déménageurs un peu spéciaux. Il faut réquisitionner des camions, il les pique, arme au poing aux soldats anglais. Un épisode que Gatelier raconte dans l'émission Histoire possible et impossible sur France Inter en 2003.
Nous sommes partis avec une trentaine d'hommes qui savaient tout juste conduire des voitures, mais pas toujours des camions. Et alors, on est allé à la rencontre des Anglais qui abandonnaient leurs camions au moins 10 km avant Brest. Et ils avaient ordre, bien sûr, de les saborder. Et nous, on voulait les prendre en bon état. Donc, la seule solution, on arrivait pistolet au poing, ils n'insistaient pas. Et on a récupéré une vingtaine de camions. Mais alors, je disais qu'on manquait de tout. Nous n'avions pas d'essence. Alors là, c'est la même chose. Une opération de force. Ça consistait à enfoncer la porte de l'arsenal et à prendre toute l'essence qu'on a pu trouver, en même temps que des chariots qui nous ont beaucoup servi, parce qu'on n'imagine pas ce que c'est que de porter ces caisses qui font pas loin de 60 kilos. Quand vous avez ça sur l'épaule, c'est abominable.
Le 18 juin, 5 navires à Paris de Brest chargés de l'or du fort de Porzic. Le 19, les Allemands bombardent Brest, puis entrent dans la ville. Mais une nouvelle fois, l'or français leur échappe. De peu, certes, mais il leur échappe. Il est désormais à l'abri en Amérique du Nord et en Afrique. Résultat, au 23 juin 1940, il n'y a plus un seul lingot de la Banque de France en métropole.
Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même un soleil retrouvé nos silhouettes dominaient la mer, il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute. Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes, des femmes qui nous accompagnaient le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée.
Vous Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, 1940, l'exil de l'or de France.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En cette fin juin 1940, la Banque de France et la Marine ont réussi. Les 2000 tonnes d'or, l'équivalent de 200 milliards d'euros d'aujourd'hui, ne sont pas tombées entre les mains des nazis. Mais la deuxième réserve mondiale, qui est celle de la France, n'est pas pour autant à l'abri. Maintenant, aussi bizarre que puisse paraître cette idée, il faut mettre l'or français hors de portée des alliés, genre méfiez-vous des amis. Car le raisonnement anglo-américain est le suivant. Cet or français, la France de Pétain peut le faire revenir en métropole où il servirait les intérêts de Vichy et donc ceux de Berlin. Alors, autant proposer de le garder, voire de l'utiliser. Pour illustrer l'attitude des alliés, il faut embarquer à bord du croiseur Émile Bertin. À l'époque, ce bâtiment militaire est le plus rapide de la marine française, capable d'atteindre les 40 nœuds, soit près de 80 km/h. L'Émile Bertin est donc naturellement choisi pour convoyer le parti de l'or français. Le 21 mai, il quitte Brest et gagne Halifax, où le 1er juin, il décharge 200 tonnes. Le 9, le croiseur est de retour à Brest. Il en repart le jour même avec 254 tonnes d'or, toujours pour Halifax. Il y arrive le 18 juin, lors d'une traversée la plus rapide possible. L'Atlantique est déjà infesté du boat, les sous-marins allemands. L'accueil dans le port canadien est glacial. Pétain a signé l'armistice la veille et les Britanniques veulent prendre le contrôle de l'Émile Bertin. Une situation que résumait l'historien Denis Lefebvre dans un documentaire de France 5, L'or de la France a disparu.
Les Anglais sont déjà extrêmement méfiants sur l'issue de la guerre, la place que la France va continuer à tenir dans la guerre. Et l'objectif des Britanniques, puisque derrière les Canadiens, il y a bien sûr les Britanniques, va être de bloquer l'Émile Bertin, de tenter de l'obliger à débarquer cet or. Et à partir de là, pendant plusieurs jours, Français et Anglais s'affrontent, succession de menaces, de départ, d'empêcher le départ, etc. Et finalement, l'Émile Bertin est autorisé à quitter Halifax.
Le croiseur file vers la Martinique, escorté par des navires britanniques. Une version de l'histoire dit qu'il les sème. Une autre dit que les poursuivants rebroussent chemin, faute de carburant. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, le 22 juin, le bâtiment de guerre français, toujours avec ses 254 tonnes d'or, arrive à Fort-de-France. Le 23, deux croiseurs britanniques le rejoignent et reçoivent l'ordre de couler l'Émile Bertin, qui ne doit son salut finalement qu'au président américain Roosevelt. Celui-ci ne veut pas de bataille navale dans une zone maritime que les USA considèrent comme leur. Le 24, le commandant de l'Émile Bertin ordonne la mise en sûreté de sa cargaison dans une casemate du fort de ses caisses et sacoches d'or. Le fort est à 3 km du quai et le transfert ne donne lieu à aucun incident grave, note Édouard de Catov. Ce cadre de la Banque de France, qui débarque de l'Émile Bertin avec l'or, regrette toutefois que les pluies torrentielles aient désagrégé les sacoches. Catov ne devait rester que quelques semaines en Martinique. Il y passera 5 ans. 5 ans d'ennui et de solitude, comme il l'écrit.
Je me suis mise à la pesée des caisses, mais la balance automatique se détraquait fréquemment. J'ai dû en chercher une autre. Les PTT ont mis à ma disposition une balance des colis postaux, mais elle n'est pas assez précise. À part ces nouvelles, rien de bien intéressant à relater. Ma vie s'écoule ici, monotone, tristement même, puisqu'aucune nouvelle des miens ne m'apporte du réconfort dans ma solitude.
Catov et l'or restent 5 ans sur place. La Martinique est de toute façon sous blocus anglo-américain. Les alliés veulent empêcher les navires français en rade de Fort-de-France de rejoindre Vichy, et il en va de même pour l'or, évidemment. Début juillet 40, le métal précieux de la Banque de France est stocké en 3 endroits. 250 tonnes à la Martinique donc, plus de 1000 à New York, c'est l'or débarqué à Halifax, et 1100 tonnes à Dakar, au Sénégal, qui est alors une colonie française. Cet or d'Afrique, Pétain le veut, et Churchill le veut tout autant pour son effort de guerre. Du reste, l'Anglais est prêt à tout pour sauver la Grande-Bretagne, le seul pays à résister à Hitler, puisque, faut-il le rappeler, les États-Unis ne sont pas encore engagés.
Avant qu'on ait pu prendre les mesures indispensables pour la défense, les premiers obus anglais grippent déjà l'or du port. Les beaux navires sont incendiés par les obus britanniques.
Le 3 juillet 1940, la marine anglaise attaque une partie de la flotte française, 11 navires au mouillage dans le golfe d'Oran à Merzelkébir. Depuis la capitulation, ces navires sont censés rester neutres. Mais Churchill craint leur ralliement au maréchal Pétain, et donc à l'occupant. 1300 marins français sont tués. Le cuirassé Bretagne sombre, le Dunkerque et le Provence touchés s'échouent pour ne pas couler. Le 8 juillet, le général de Gaulle, depuis les studios de la BBC, s'adresse aux Français.
Les navires d'Oran étaient en réalité hors d'état de se battre. Ils se trouvaient au mouillage. Ensuite, je dis sans embâge qu'il vaut mieux qu'ils aient été détruits. J'aime mieux savoir, même le Dunkerque, notre puissant Dunkerque, échoué devant Merzelkébir, que de le voir un jour monté par des Allemands bombarder les ports anglais ou bien Alger, Casablanca, Dakar.
Dakar, où est stocké quasiment la moitié de l'or de la Banque de France. C'est là que nous retrouvons l'un des cadres de l'institution, Charles Moreton, que nous avions laissé faisant le coup de force pour évacuer les lingots depuis sa région bordelaise. Entre-temps, il a vécu quelques péripéties. Alors qu'il était à bord d'un hydravion pour rejoindre le Sénégal, un hydravion n'est-il au passage pas vraiment construit pour enorgueillir l'aviation maritime, il échappe à une attaque de chasseurs anglais. Mais il atterrit sain et sauf le 6 juillet à Dakar, d'où il repart le surlendemain. Bon, l'endroit n'est pas sûr, car à portée de la marine anglaise. Décision est donc prise, l'or doit gagner l'intérieur des terres. Le voilà donc chargé sur des trains, direction Thiès, à 70 km de là. Moreton fait le trajet en voiture, et il note. Panne en pleine brousse, par une chaleur accablante, avec heureusement près de nous l'ombre bienfaisante d'un gros baobab. Plus loin, dans ses mémoires, il écrit encore la rencontre avec des singes bien plus amusants que les moustiques et les fourmis qui nous ont dévorés, je le cite. L'autre représentant de la Banque de France, Bernard Gontier, lui, fait un malaise. Quand les deux hommes arrivent enfin à Thiès, disons, et c'est un euphémisme, qu'ils sont découragés. Voici comment l'historien Tristan Gaston Breton décrit cet instant dans son livre « Sauver l'or ».
Défoncé par les manutentions répétées, un grand nombre de caisses ont dû subir des réparations de fortune, laissant entrevoir leurs précieux chargements. Quant aux sacs, saison des pluies aidant, ils sont détrempés et pour certains déjà crevés. Dans les wagons, c'est par poignées entières qu'officiers et soldats ramassent les pièces. À Thiès, l'or est entreposé dans trois baraques en bois, sans cave, aux fenêtres murées, aux portes seulement cadenassées, et gardé en tout et pour tout par une trentaine d'hommes.
Thiès n'a donc rien d'un coffre-fort, mais surtout, le site est trop proche de Dakar, où en cette fin septembre 40, des Français se battent contre des Français pour la première fois de la guerre. Les soldats gaullistes, en effet, appuyés par les Anglais, tentent de conquérir la ville et de récupérer l'or entreposé à Thiès. Ils sont repoussés par les Français restés fidèles à Pétain. Pour les agents de la Banque de France, Moreton et Gontier, l'or doit être mis en sûreté ailleurs, à l'abri des convoitises des uns et des autres. Oh, ils n'ont pas beaucoup de solutions, et pas beaucoup d'aide non plus. La Banque de l'Afrique occidentale française estime ne rien pouvoir faire. Le gouverneur est aux abonnés absents. Quant aux autorités militaires, tiraillées entre De Gaulle et Vichy, elles jugent plus prudent de ne pas trop agir. Finalement, fin septembre 40, trois convois ferroviaires quittent Thiès pour s'enfoncer dans le continent africain et s'arrêter à Caire. L'endroit est parfait, il est loin de tout, à l'abri des convoitises. Dans son livre « Les secrets de l'or », l'ancien conseiller à la Banque de France Didier Brunel écrit.
Les avantages de ce choix sont évidents du point de vue militaire puisque Kayes, au Soudan français, l'actuel Mali, a plus de 700 km de Dakar, est donc éloigné de toute frontière terrestre ou maritime. Il faut 18 heures de train pour faire le voyage et il n'y a que 3 trains par semaine. Le téléphone interurbain n'existe pas. La route est une piste difficilement praticable en temps normal, ne l'est plus pendant la saison des pluies. D'ailleurs, il n'y a pas d'essence. et à tout point de vue, les ressources sont des plus réduites.
Il faut 15 jours pour transférer les 1100 tonnes d'or des trains jusqu'à un bâtiment proche de la gare. C'est à peu près la seule animation de l'époque à Caïr. Les jours et les nuits se succèdent, tour de garde après patrouille, dans cette ville de plus de 10 000 habitants, qu'on surnomme pour sa chaleur étouffante la cocotte minute de l'Afrique. Quelques photos de l'époque montrent les blancs en bermuda sombre, chemise saharienne claire et casque colonial blanc, posant pour l'objectif. Parmi eux, l'agent de la Banque de France, Bobin. En 1974, pour l'émission « L'or en exil » sur le RTF, il reconnaît « À Caï, on ne faisait pas grand-chose ».
On allait à la pêche alors avec les indigènes dans leurs pirogues. Par contre, on craignait que les termites viennent dévorer nos caisses. Alors on nous avait signalé que le jus de cisale pouvait les empêcher de venir. Et on arrosait les allées du dépôt. On ne s'est jamais senti en danger là-bas. C'est très curieux, est-ce que c'était cet isolement de se trouver au milieu de la brousse, à des centaines de kilomètres de ville. Au départ, nous devions partir pour 2 ou 3 mois au maximum. Je ne pensais jamais que je serais resté 5 ans et demi là-bas.
Eh oui, comme Édouard de Catoff-Fausanti, Bobin ne rentrera en France qu'à la fin de la guerre. Dans les courriers que s'échangent les agents expatriés de la Banque de France, l'ancien conseiller Didier Brunel relève les préoccupations de ces exilés forcés. L'état de santé physique et psychique, l'éloignement familial, l'absence ou la rareté des nouvelles, les difficultés d'habillement ou de ravitaillement et le désœuvrement. Il note aussi, dans la correspondance des agents, l'expression d'un racisme bien élevé. Vous savez, cette supériorité d'Européens, pas affirmée explicitement, mais toujours façonnée par de remarques désobligeantes, comme lorsque leur collègue Bobin, à Caï, épouse une mulâtresse, comme ils disent. Les jours de guerre s'égrènent, l'or est à l'abri, nul ne peut l'atteindre à New York, nul ne peut le charger en Martinique où les navires alliés organisent le blocus de l'île, et nul ne peut le voler à Caï où les seuls ennemis sont des moustiques. Bien sûr, les agents de la banque sont au courant des avancées alliées et du recul des forces de l'Axe. Débarquement d'Afrique du Nord en 42, Sicile en 43 et en France, bien sûr, en 44. En février 45, le croiseur Georges Legge appareille d'Alger pour Toulon avec 106 tonnes d'or. C'est le premier transport retour de l'or en métropole. Le dernier aura lieu en mars 46. L'or des Antilles est déchargé à Cherbourg et le journal La Presse de la Manche écrit « On sait maintenant que le Montcalm, cette belle unité de notre marine, avait dans ses flancs 8766 caisses qui ont été débarquées dans le plus grand secret et transportées à Paris dans un train spécial pour faire leur retour dans notre grand établissement bancaire. » Le retour du trésor était bien moins éprouvant que l'évacuation. L'or français n'attise plus la convoitise des nazis ou des alliés. Les mers ne sont plus sillonnées par les sous-marins ennemis. Et malgré les dégâts causés par la guerre, les trains blindés remontant les lingots circulent sans encombre. À la fin de l'année 1946, la souterraine, l'immense coffre-fort de la Banque de France, est à nouveau remplie d'or. L'historien Tristan Gaston Breton écrit « Le stock est là, intact, prêt à servir pour financer la relève d'une nation. » Sans le précieux métal jaune, la France aurait peut-être perdu son indépendance. Dans le documentaire « L'or de la France a disparu », Didier Brunel ajoute.
On en avait besoin pour reconstruire le pays. Parce qu'on oublie ça, on dit le plan Marshall, mais le plan Marshall c'est 48 quand même. La fin de la guerre c'était pas 48. Donc il y a eu quelques années où il a fallu financer soi-même. Et là, l'or a joué son rôle complètement.
En pleine débâcle, entre défaites militaires, vacances du pouvoir politique et désorganisation administrative, l'or de la France a été sauvé.
Enfin, presque tout l'or de la France a été sauvé. Car après-guerre, si on fait le compte, sur les 2168 tonnes évacuées, il manque 395 kilos, soit 0,01% de l'ensemble du trésor français. Même pas mal.
France Inter. «
Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
L'or de France, hors de France. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité Arnaud Manas. Bonjour. Bonjour Arnaud Manas. Vous êtes historien et vous dirigez le service du patrimoine historique et des archives de la Banque de France. Vous avez publié en 2016 chez Vendémiaire l'or de Vichy. Et vous êtes l'auteur de cette jolie formule à propos du sauvetage de l'or, la seule victoire française de 1940. Alors, je voudrais d'abord revenir sur un point qu'il faut souligner, les difficultés logistiques qui, au printemps 40, auraient pu faire échouer l'évacuation. C'était vraiment un pari fou, un pari nécessaire. Comment vous le qualifieriez ?
C'était nécessaire, c'est-à-dire que... L'alternative, c'était laisser l'or en place et avec le risque, voire la certitude, au fil du temps, que l'or soit saisi par les nazis. Parce que pendant toute la période précédente, les nazis avaient fait la razzia sur leur tchèque, leur polonais, enfin une partie de l'or polonais, l'or autrichien, etc. etc. Donc l'or français serait tombé dans leur escarcelle comme les autres.
Et on disait qu'effectivement, le plan Marshall est arrivé en 48, la guerre se termine en 45, ça fait 3 ans, et que si l'or avait été dérobé, la France aurait perdu son indépendance. La phrase est forte, est-ce que vous la partagez ?
En tout cas, aurait été dans une situation beaucoup plus délicate, puisque l'or... aux 395 kilos égarés est resté intact. Donc, on est passé, c'était un peu plus de 2000 tonnes, et qui ont passé la guerre intactes, mais en 48, on n'était plus qu'à 500 tonnes. C'est-à-dire qu'il a fallu utiliser 1500 tonnes pour acheter du charbon, du pétrole, de la nourriture, puisque on n'avait pas d'autre solution. Sinon, il aurait fallu mendier et demander des crédits qu'on aurait payés très chèrement.
Comment expliquer qu'au sein du gouvernement Reynaud, seul le ministre des Finances, M. Lucien Lamoureux, fort tenir son nom, a décidé, seul et presque contre les autres membres du gouvernement, d'évacuer l'or ?
Alors, je mettrai peut-être un bémol, parce que ce sont ses mémoires d'après-guerre. On n'a pas de témoins ni de verbatim, mais c'est vrai, je pense qu'il a été le premier à... peut-être voir que la situation était vraiment désespérée et qu'il fallait appuyer sur le bouton du siège éjectable. Les autres étaient peut-être pris, croyaient encore qu'on pourrait renverser la situation.
Et quand la réserve française est dispersée entre, on l'a dit, Amérique, Antilles et Afrique, et même Canada, quel est le statut de l'or ? Il appartient de fait à qui ? À Vichy ? Au gaulliste, à qui il appartient ? À la France, certes, mais quelle France ?
À la Banque de France et à l'État français. Alors, selon les lois internationales, c'est le gouvernement légitime. Donc, d'ailleurs, les Américains, qui sont très juridiques, bloquent l'or et interdisent donc à Vichy, qui est le gouvernement légitime, d'accéder à l'or. Mais rejettent les gaullistes... les renvoient en leur disant qu'ils n'ont aucun droit sur cet or. Donc, en théorie, il appartient à Vichy, mais en pratique, il est dans un no man's land, c'est la force qui prime.
Quel est le statut de la Banque de France, son statut juridique ?
Alors, le statut juridique, elle est encore privée, puisqu'elle ne sera nationalisée complètement qu'à la Libération, en décembre 45, mais... elle est quand même contrôlée par l'État, puisque depuis 1806, il y a un gouverneur qui est nommé d'abord par Napoléon et qui prête serment de fidélité à l'État, au gouvernement. Et puis, depuis 1936, les représentants des actionnaires sont nommés par l'État. Alors, elle est encore dans un statut un peu hybride, avec à la fois une gouvernance forte qui... vient de l'État, mais aussi des réflexes un peu du privé qui sont que ce qui compte, la mission première, c'est de préserver l'or.
Ouais. Une partie de cet or a-t-elle été utilisée pendant la guerre par les belligérants, finalement, au bout du compte ?
Alors, non, les belligérants n'ont pas utilisé...
Alors, il n'y a pas eu de fuite, quoi.
Il n'y a pas eu de fuite, puisque l'or est resté intact. Alors, il y a... si on creuse dans les détails, il y a eu quand même quelques transferts, mais c'est à la marge. Ensuite, il y a le cas de l'or belge, mais ça, c'est une autre histoire.
On va en parler d'ailleurs quand même, c'est intéressant.
Alors...
après, on va finir.
Voilà, donc, il n'y a pratiquement... On va dire qu'il n'y a quasiment pas eu de fuite.
D'accord. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Arnaud Manas, je rappelle que vous êtes historien, que vous dirigez le service du patrimoine historique et des archives de la Banque de France. Vous êtes l'auteur du livre paru en 2016 intitulé « L'or de Vichy », paru chez Vendémiaire. Alors, cette histoire belge, pardon pour la formule, mais c'est un épisode que nous n'avons pas abordé dans le récit. Parmi les plus de 2000 tonnes d'or évacuées, il y avait 200 tonnes d'or belge que les nazis ont pu récupérer. Ça fait quand même 10%. C'est beaucoup plus que la manne française, hein.
Alors, c'était en plus des 2000 tonnes, c'est-à-dire que la Belgique, la Banque nationale de Belgique, avait confié à la France ses réserves d'or pour les évacuer. Et l'or a été stocké en Afrique, l'évacuation a été parfaite, mais le gouvernement belge, plus exactement le gouvernement collaborationniste belge, avec le roi Léopold III, et Laval, avec l'accord de Laval, ont demandé le rapatriement de cet or en Belgique pour le confier non pas à la garde de la Banque de France, mais à la garde de la Reichsbank. C'est ce qui fait que l'or a été rapatrié. Bien évidemment, la Reichsbank, l'or a été saisi par les autorités du Reich et a été refondu. Les barres ont été antidatées pour des années antérieures, 36, 37, 38.
Histoire de faire croire que c'était leur propriété.
Exactement. Mmh. Et a été cédé aux banques, à la Banque Nationale Suisse et aux banques suisses pour, contre des francs suisses pour acheter des armes et des ressources, et diverses ressources.
Oui, comme quoi, neutralité concernant la Suisse, ça n'est pas forcément moralité.
Voilà, il y a la Suède aussi.
La Suède aussi. Et pas que pour l'or, d'ailleurs. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Est-ce que la Banque de France a pris sur sa réserve d'or pour indemniser la Belgique ?
Tout à fait. À la fin de la guerre, la France considérait que, même si elle avait essayé de résister et de dire que elle était liée par l'accord entre la Banque nationale de Belgique et la Banque de France et que elle ne pouvait pas le rendre. Bon, d'ailleurs, le gouverneur Fournier, qui avait été jusqu'en 40, a été révoqué. Dans l'instant, quand il a voulu s'opposer, est remplacé par un autre gouverneur beaucoup plus souple qui a livré l'or belge donc aux autorités du Reich.
En 2017, dans ce qu'on appelle l'affaire Troadec, quatre morts d'une même famille, hein, le mobile invoqué était un trésor familial composé de lingots et de pièces d'or qui auraient été volés à Brest en 1940 lors des opérations d'évacuation. Est-ce que c'est avéré, cette chose-là ?
Alors, c'est chaque fois qu'on trouve de l'or en Bretagne, on dit c'est l'or de la Banque de France, c'est l'or de Brest. Alors, ce qu'on sait, puisque on a fait les comptes, entre le départ et l'arrivée, il manquait 395 kilos d'or. Lors de l'évacuation, qui a été, comme vous l'avez très bien rappelé, rocambolesque, on sait que de Brest, ils ont chargé des palans et qu'il ne s'agissait pas de respecter les poids réglementaires. Et donc, ils ont mis autant de caisses que possible. Et lors d'un des transferts, on a entendu un grand plouf. Il n'y avait pas le temps de s'arrêter pour savoir si une caisse était tombée. Exactement. Donc, ils ont tout chargé. Et puis après, ils ont fait les comptes et ils sont aperçus qu'il manquait une caisse. Mais est-ce que c'était la caisse qui était tombée ? C'était autre chose ? Est-ce que la caisse avait disparu avant, avait été mal aiguillée ? Parce que sans la panique, les derniers jours du chargement, comme il le rappelle, on mettait tout sur un camion, on mettait tout sur le bateau et puis on comptait après. Et donc, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, mais quand même, à la Libération, on a envoyé un scaphandrier explorer le port de Brest. On n'a rien trouvé. Donc, sont restées trois hypothèses. L'or, les courants avaient emmené loin l'or, et l'or serait toujours dans le port de Brest. Peu probable. Deuxième hypothèse, ce sont les Allemands qui ont trouvé l'or et qui n'ont rien dit. Peu probable non plus, puisque ça aurait été quand même documenté. Et troisième hypothèse, des petits malins ont pu plonger et récupérer l'or. peu probable aussi parce que c'était un port militaire occupé par les Allemands.
Mais il ne reste pas l'hypothèse.
Et donc, en tout cas, il semble que les trois hypothèses sont assez peu probables. C'est pour ça que dans l'affaire Troadec, il y a sûrement de l'or, mais sûrement pas de l'or de la Banque de France.
Bien, alors aujourd'hui, le stock d'or de la Banque de France est de presque, vous me dites si le chiffre est bon, 2500 tonnes, ce qui correspond à 200 milliards d'euros, c'est ça ?
Oh ben, ça change tous les jours, mais on a dépassé les 200 milliards
d'euros. D'accord. Et alors, est-ce que cet or dort toujours dans la souterraine ?
Ah ben bien sûr. on ne peut pas rentrer dans la souterraine, comme vous vous en doutez, mais les 2436 tonnes d'or, pour être précis, 0,8, sont dans la souterraine et sont sous bonne garde.
Bon, j'ai aucune intention d'aller la braquer, la souterraine, mais dites-moi quand même à quoi ça ressemble.
Eh bien, ça n'a pas tellement changé depuis la création et depuis Stefan Zweig. C'est-à-dire que c'est une immense salle forte, donc à 30 mètres sous terre, avec maintenant... Alors, la sécurité a quand même évolué, parce qu'il y a toujours la sécurité physique du temps de Zweig, avec des portes fortes, mais maintenant, c'est la sécurité électronique, avec des capteurs dans tous les sens, etc. Mais l'or reste toujours dans des serres, puisque à la Banque de France, on n'a pas des coffres, on a des serres, c'est-à-dire, c'est l'endroit, ce sont des salles fortes, c'est l'endroit où on resserre l'or. Et donc, c'est la serre A, avec ses 2436 tonnes d'or, avec des armoires alignées, pas à perte de vue, mais quand même, et avec donc des barres de 12,5 kg.
Bien. Merci beaucoup Arnaud Manasse. Alors, je signale que vous venez de sortir un livre, j'ai pas eu le temps de le lire, on l'a reçu il y a quelques jours, il est sorti il y a pas longtemps, ça s'appelle « Histoire de la fausse monnaie en France, des Gaulois ». Jusqu'à nos jours, il y a un continuum de fausse monnaie apparemment. Hein. Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'évacuation de l'or français pendant la guerre. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.